bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Agnès Hurstel.
Bonjour.
Daniel Morino.
Bonjour Agnès.
Ah bah c'est écrit comme ça. Hein.
Ça va.
Albert Algout.
Bonjour.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Salut.
Et notre invité est l'excellent David Foyquino.
Bravo.
Bravo. Merci. Vous l'avez très bien prononcé.
Ouais, c'est bien. Je suis énervé. J'aime pas être impoli comme ça. Quand je suis impoli, j'aime assumer d'être impoli. David Foyquino, j'ai commencé par dire que vous étiez l'excellent parce que voilà je
quel roman.
Je vous wow. aime, je vous admire. Merci. Et je suis
quelle qualité de papier,
j'ai adoré. J'ai adoré.
C'est un glisse sur
merci
le
Daniel
doigt,
ça c'est compliment qui me va droit au cœur.
Mais ouais, et puis ça change.
On parlera de l'écriture un autre jour.
Un autre jour, ouais.
Deux sœurs et votre nouveau roman, c'est le combienième d'ailleurs, vous les oui vous
c'est
les comptez.
16e.
16e.
Ouais, 16e roman. Bon, ah regardez oui. pas comme ça.
Non, si, parce que c'est d'une efficacité, d'une densité.
Ouais, le premier c'était en 2002, donc il y a 17 ans, donc presque un par an.
Un par an, ouais. C'est du travail d'ailleurs ou pas pour vous? C'est venu comme dans un jaillissement les deux sœurs.
C'est une question gênante. C'est
celui-ci
du
était arrivé vraiment d'une manière assez pulsionnelle, c'est vrai, mais bien sûr que c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai le sentiment d'écrire tout le temps,
alors
de ne jamais m'arrêter.
C'est quoi le travail d'un écrivain? C'est-à-dire, c'est de la documentation, c'est de l'introspection, c'est poser des questions autour de soi. Là, en l'occurrence, deux sœurs sont mises en scène. Est-ce que vous avez posé des questions autour de vous, à des amis, alors, à des psys? Comment se comportent des sœurs?
Ce qui est bien avec le métier d'écrivain, c'est que quand on ne travaille pas, on peut dire qu'on est en plein travail. On peut rester au lit toute la journée en disant je suis en plein boulot, je réfléchis. Moi, j'ai le sentiment que les livres s'écrivent même en dehors des temps d'écriture. Ouais. Il y a quelque chose qui se trame de l'ordre de l'inconscient. Là, vous avez raison, c'est un livre sur la rupture amoureuse d'une manière vraiment extrême. Donc, j'ai pu parler avec certaines personnes, essayer de comprendre à quel point on ressent cette dévastation et qu'on n'arrive pas à avancer sans sa raison d'être.
Alors,
c'est un mélange de tout, de curiosité.
Vous avez peut-être connu des ruptures amoureuses, donc vous êtes allé puiser.
Alors,
dans
pas
ce que...
à ce point-là, et j'espère pour moi, ouais. et surtout pour la deuxième partie du livre, j'espère que voilà, ça ne m'arrivera pas.
Alors, on va en parler de ce livre et surtout, alors le livre est en deux parties, mais il y a évidemment, parce que c'est tout à l'heure j'ai dit que c'est un thriller que vous vouliez écrire, c'est vraiment conçu comme ça, même si la tension monte petit à petit dans les peut-être la première partie, on se dit mais où est le suspense, on va le découvrir au fur et à mesure et à un point où ouais. je vous en veux d'ailleurs parce que je m'attendais à tout sauf ce qui se passe, donc jusqu'à la dernière ligne. On est pris, on est bluffé.
Ça me fait plutôt plaisir, c'est un compliment, mais c'est vrai que c'est plutôt ce livre, c'est un thriller psychologique, un huis clos, familial, en tout cas avec l'évolution de cette femme, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et c'est vrai que c'était l'enjeu pour moi de ce livre. J'écris des livres très différents, c'est vrai que rien à voir avec la délicatesse, Charlotte, le mystère en épique.
Ouais. Oui, mais il y a la plume quand même. Il y a
oui, j'espère qu'on me reconnaît.
Ah oui, exactement.
Il y a une marque Foyquino maintenant, c'est les notes de bas de page qui sont à pleurer de rire à la fois c'est on l'a dit, c'est haletant, c'est un huis clos, un moment terrifiant, on va pas tout dévoiler, mais moi ce que j'ai adoré dans votre bouquin, c'est non seulement votre acuité à parler de l'âme féminine, parce que c'est une femme que vous mettez en scène dans ce vertige du désamour, dans ce délitement complet de la personnalité, et puis il y a beaucoup de sourires. Moi j'ai retrouvé le plaisir que j'avais à relire des Balzac ou des Stendhal qui me font toujours beaucoup rire, parce que le narrateur est toujours très drôle, et bien dans ces notes de bas de page, vous instaurez un autre code narratif avec le lecteur. Et moi, j'ai trouvé ça génial.
Mais merci. Pour moi, c'est vrai que je raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Je voudrais que le lecteur suive cette histoire. Évidemment, c'est pas autobiographique ou personnel, mais pour moi, c'est très important d'être présent. Donc, à travers les notes bas de page ou simplement les commentaires que je peux avoir sur l'histoire et sur ce que vivent les personnages.
Mais j'ai lu que les notes de bas de page, je me suis régalé.
C'est bien. Alors, ça a pris combien, Daniel? 3 jours pour toi?
Même pas.
Mais j'ai pris mon temps, j'ai savouré.
Ça fait penser à la coccinelle de Gottlieb un tout petit peu, ces notes de bas de page. C'est comme s'il y avait une autre façon de lire l'histoire et le sens de l'humour dont parlait Leïla. Mais d'abord, l'interro pour David Funkinos, évidemment. Enfin, elle n'est pas pour David, elle est pour vous, sur David Funkinos. Enfant, à quel jeu de société jouait-il seul?
Monopoly. Mystère de Pékin.
Monopoly.
À égalité, hein.
Ok, d'accord. Alors
là... Mais c'est pathétique, cette anecdote.
Non, qu'est-ce qui est pathétique? C'est que tout,
de jouer seul.
Que tout le monde le sache ou que vous jouiez
non,
seul
non,
au Monopoly?
Non, vous avez vraiment
moi
une
aussi,
équipe
je
de haut niveau, ça, je m'attendais à ça.
Jouer seul à la bonne paye.
On est sûr de gagner, au moins.
Ouais.
La tristesse.
Mais quand personne veut jouer avec toi.
C'est peut-être comme ça qu'on devient écrivain.
Mais il était où, Stéphane?
À jouer tous les personnages.
Il était où, votre engin?
On a 6 ans d'écart. C'est vrai que mon frère, voilà, paraît plus jeune. Mais quand j'étais jeune, je le voyais pas beaucoup, hein.
D'accord. Oui, vous êtes rattrapé depuis, ça va. Que fallait-il faire pour ne pas payer son cours de guitare avec David Funkinos? Il enseignait la guitare, mais il avait un truc pour pas payer le cours de guitare.
Lui raconter une histoire?
Non.
La drogue.
Se mettre non. À pleurer.
La drogue.
Non, non, c'est une super idée et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui vont récupérer son idée.
C'est un rapport avec le père Prena.
Proposer quelque chose en échange, un autre savoir. Je t'apprends ça, tu m'apprends ça.
Non, mais c'est en effet un deal.
C'est un troc.
C'est un deal, ouais.
Le poignet cassé.
Non.
Je te prête ma guitare. Alors, c'est David qui prenait des cours.
Non, c'est lui qui te donne des cours.
Ouais.
Et il disait aux élèves.
Tu payes pas.
Si vous faites ça.
Si tu joues tel morceau,
si tu
pas mal, mais ça je vous reconnais là-dedans, mais c'est pas ça.
Si tu prends 10 leçons,
si tu m'apportes un élève.
La promo.
Si au bout de 10 leçons, c'est-à-dire que l'idée, vous disiez, ça coûte 100 €, c'est ouais. Ça, si j'ai bonne mémoire.
Non, alors c'était il y a longtemps, donc 100 francs.
100 francs, pardon.
Ouais, c'est 100 € le cours de guitare.
Je sais pas.
Non, mais c'est la guitare.
J'aurais dû en prendre. Donc ça coûte 100 francs.
Oui, c'était un système à Palamadov, c'est-à-dire que c'était 100 francs, et si l'étudiant m'apportait un autre élève, il payait 90 francs.
Ah
et
ouais.
S'il m'en apportait 10, ça devenait gratuit.
C'est du parrainage.
Voilà.
Génial.
Du parrainage, voilà.
Il
c'était
vous faisait
la seule
clientèle.
Façon où, du coup, j'ai fait ça, j'ai fait prof de guitare pendant 3 ans, et c'est vrai que ça me permettait d'avoir de nouveaux étudiants.
Bon, c'était pas exactement ce qu'a dit.
Non, pas exactement.
C'était pas du tout ça.
Moi, j'ai dit un peu ça quand même.
Moi, j'ai dit un peu ça.
Mais j'ai entendu la drogue.
Mais comme c'est drôle.
Et après, j'ai dit.
Non, Agnès l'a dit.
Mais comme je suis un peu droupie,
ouais, ouais.
C'est vrai, Agnès l'a dit.
Ouais, Agnès l'a dit. Ouais.
Ah, ok, d'accord.
Ah bon, alors, le point Agnès.
C'est mon premier point de l'année.
Le point
je vous
pour Agnès.
Vous de l'offrir.
Oh, le sol.
Ok. Restons dans la musique. Pourquoi David Funkinos n'a jamais réussi à former un groupe de musique?
La flemme.
Non.
Parce qu'il faut,
talent,
il faut se retrouver à l'heure avec les autres. Il faut se retrouver à l'heure avec les autres.
Non.
Parce qu'il n'aime pas jouer
musique.
En groupe.
Non.
Les gens n'aiment pas.
Les gens voulaient
parce
pas.
Qu'il s'est jamais mis d'accord sur un nom de groupe.
Quand tu joues seul à Monopoly, c'est un signe.
Parce qu'il voulait être d'instruments.
Il voulait être leader.
Alors, tout le monde faisait de la guitare.
Il voulait être chanteur.
Voulait être
personne
ne
voulait chanter.
Non, c'est cette piste-là.
On se rapproche là.
Ouais.
Je suis trop forte.
Il n'y avait pas de batterie. Il ne trouvait pas de basse.
Exactement.
Ouais, bravo les là. Je trouvais pas de bassiste. Et quand j'ai publié mon premier roman, voilà, j'avais fait une interview dans Le Monde, on m'avait demandé pourquoi écrivez-vous, j'avais répondu parce que j'ai pas trouvé de bassiste. C'est une bonne raison pour écrire. Très compliqué de monter des groupes. Et c'était... du coup, tous ceux qui aiment pas mes livres me proposent de jouer de la basse avec moi.
À propos de livres, justement, pour le service de presse de son premier livre, David Funkinos se retrouve avec Daniel Pénac. Mais ce dernier lui dédicace son livre. Qu'est-ce qu'il écrit sur la dédicace?
C'est trompe de nom.
À Stéphane?
Non.
N'écrivez pas, fuyez,
non.
Changez.
Non, non, c'est une. C'est, au contraire, c'est positif. Ah. Prenons ça comme une main tendue.
Tu m'as tout pris.
Belle.
Non.
Lisez-moi. Boucle.
Quoi?
Belle boucle.
Belle boucle.
Non.
Belle boucle.
Ah, pour les cheveux.
C'est très positif.
Ouais.
Ouais.
Tu me blais, toi, avec tes boucles. Non.
Bah, j'espère que c'est pas le dernier que vous allez me dédicacer.
Non.
Bonne chance.
Note de fin de page exceptionnelle.
C'est Daniel Pénac qui dédicace à David Funkinos.
Ah, d'accord.
Son livre.
Ne le lisez pas, allez travailler.
Non.
Si ça peut vous donner des idées.
Non, il y a une idée d'être accueilli, oui.
Ouais, il m'a dit quelque chose surtout. Là.
Ah, je croyais que c'était dédicacé.
Oui, oui, tu me l'as écrit, mais c'est vrai que c'était un mot sympathique. Quoi.
Bah, j'attends vos dédicaces pour les 20 prochains.
Bon. Ils trouveront pas.
Non.
David. Bienvenue au club.
Oh, bah super.
C'est chouette de le dire.
C'est vrai?
Oui, oui, c'est vrai.
Bien sûr, je te crois. Bienvenue.
Non, parce que c'est banal.
Bah oui, mais non, mais c'est
ils
une expression.
Plus d'inspiration comme quand c'est des anecdotes un peu méchantes sur moi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'était trop sympa.
Le camp des fumiers.
Ça les intéresse pas.
Il aurait dû écrire belle.
Quand David Funkinos fait sa valise pour partir, qu'est-ce qu'il n'oublie jamais d'emporter? Puisque tu voulais le dire, dis-le maintenant, Albert.
Un slip.
Non.
Un livre, un crayon, un calepin pour écrire.
Tu l'oublies d'abord.
Un appareil photo, un t-shirt blanc, c'est une chemise.
C'est un truc pour son confort personnel.
Un oreiller.
Un masque pour les yeux.
Son matelas.
Non. Des boules qui est.
C'est fait. Oui.
Ah ouais.
Pour dormir.
Bravo. Ouais. Mais on se connaît pas.
Non, mais j'ai les mêmes.
Pareil.
Tu connais toutes les réponses.
C'est fou, ça, les boules qui est.
Oui.
Je sais pas,
moi
ça vous est
fou fou.
Si
plus.
C'est fou.
Non, mais moi, ça
ne viendrait jamais à l'idée. C'est bizarre. Ça viendrait jamais à l'idée de déjà de mettre des boules caisses quoi. Je sais pas.
Il y a 10 minutes, on parlait de mon livre, c'était formidable. Alors je parle de mon rapport aux boules caisses.
Oui.
Mais c'est ça aussi être un auteur, c'est savoir. Voilà.
Mais parce que je dors très très mal. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose, je pense, pour un écrivain, d'être insomniaque, de pouvoir être en éveil tout le temps.
Victor Hugo. Ça tourne à ce moment-là.
Ça tourne tout le temps. J'ai jamais essayé de soigner l'insomnie. Donc, à part les boules qui est pour essayer de m'enfermer dans ma vie.
Vous devez lire le livre de Tahar Benjelloun.
Alors, non seulement je l'ai lu, mais j'ai adoré ce livre. C'est vraiment une idée géniale. Et vraiment, il faut le lire. Ouais,
et
c'est
à mettre en pratique aussi.
À mettre en pratique.
Vous avez envie de
pour dormir.
Vous avez envie de faire comme lui, tuer quelqu'un pour mieux dormir.
Non, je n'irai pas jusque-là.
Non.
Albert, vous?
Oui.
Ok. Les voisins, parfois.
Il dort très bien.
Les moustiques.
Il dort très bien.
Ça, il dort.
Alors, parlons donc de Deux Sœurs, ce nouveau roman que vous publiez chez Gallimard, votre maison. Vous racontez d'abord, c'est en deux parties. La première partie est consacrée à une rupture. Mathilde vit le parfait amour. Elle parle même de faire un enfant. Elle part en voyage. Elle part en voyage en Croatie. Elle a des repères de cette, dans cette histoire. Et puis, comme ça, sans comprendre le pourquoi du comment, son futur mari lui annonce une séparation. Je m'en vais, je te quitte. Elle comprend rien. Elle est prof de français.
Oui, elle est prof de français, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fatalité, de condamnation à mort du passé. Quand une personne vous dit « je ne t'aime plus », on ne peut pas agir contre ça. Et c'est vrai que j'avais envie de décrire une rupture amoureuse, mais vraiment extrême.
Subie,
mais surtout d'une violence très, très importante, puisque cette femme n'arrive plus à avancer et n'a plus sa raison d'être.
Ah bah elle peut même plus sortir. Elle peut même plus sortir dans Paris ou aller dans un resto, parce que tous les lieux
lui rappellent le passé. D'ailleurs, elle achète une carte, elle habite à Paris, elle achète une carte et elle raye tous les endroits où finalement elle a été avec lui et elle se rend compte qu'il lui reste quelques petits îlots comme des cellules. Et
c'est tellement vrai ça.
Qui ne s'est pas posé la question de se dire c'est ce quartier-là, il est foutu parce que je l'ai tellement arpenté.
Exactement, c'est aussi une sorte d'assassinat de son passé d'une certaine manière. Et elle est incapable d'avancer. Elle a aussi les amis de son ex qui viennent la voir un peu comme un service après-vente de la rupture. Il y a quelque chose d'un peu terrible, un peu pathétique. Et puis surtout, il y a des situations dans la vie où on a le sentiment de pouvoir faire quelque chose, des situations compliquées ou même des maladies parfois, de combattre. Là, elle est face à une armée de fantômes, elle est face à une situation face à laquelle elle ne peut pas du tout agir. C'est une fatalité.
Et puis le bonheur, vous le dites, le bonheur c'est un ennemi mortel en termes de narration. J'ai trouvé cette phrase géniale, c'est-à-dire que là, tout de suite, il faut forcément qu'on parle de la peine. Et c'est la peine qui intéresse.
Oui, et puis ce qui m'intéressait, c'était justement de voir jusqu'où aller face à sa souffrance, va la propulser vers une autre personnalité, vers une forme de violence. Alors, on ne va pas raconter tout ce qui va se passer.
Avant d'arriver dans la deuxième partie, je voudrais continuer dans cette première partie où on découvre vraiment la vie de Mathilde. J'insistais sur le fait qu'elle soit prof de français parce que c'est donc quelqu'un qui vit avec les livres, avec la transmission, avec le partage, avec ses élèves. Elle enseigne Flaubert, l'éducation sentimentale. Vous n'avez pas choisi non plus ce sujet et cette œuvre au hasard pour son enseignement. Elle vit d'ailleurs tellement dans les romans. Alors ça, c'est un truc de dingue. Ouais, vous parlez du danger pour un auteur. Vous parlez du danger de la littérature.
Oui, elle dit que tous ses malheurs viennent de la littérature. Ce qui n'est pas mon cas, moi la littérature m'a sauvé la vie, mais c'est vrai
vous qui l'avez écrit.
À un moment donné, elle se rend compte ce qui m'intéressait. Vous parlez de transmission, d'éducation, c'est très important pour moi. Moi, j'ai développé mon goût aussi avec les professeurs, j'étais pas issu d'un milieu culturel, mais c'est vrai qu'elle a le sentiment de maîtriser parfaitement Flaubert, la psychologie des personnages, de l'éducation sentimentale, tout en étant dans le désarroi total par rapport à sa propre compréhension. Donc elle se rend compte que finalement les clés les clés romanesques ne l'aident pas du tout à affronter sa situation.
Et elle est donc totalement, elle est abandonnée par, par son futur mari, qui lui en fait renoue avec une ex, donc ça remue encore plus le couteau.
Oui, je crois vraiment que c'est une double peine, une double violence dans cette séparation, c'est qu'il retourne avec sa précédente compagne, elle a le sentiment d'avoir été une parenthèse, d'avoir bouché le trou du cœur de cet homme pendant 5 ans, et c'est une humiliation.
On peut pas éviter la comparaison en disant...
Fantôme de l'ex.
Voilà, c'est ça. Il a vécu avec moi et puis finalement il préférait l'autre, donc j'ai perdu tous les niveaux.
On sent que cette femme est vraiment malmenée par la vie d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est une histoire de fatalité, mais finalement elle n'a pas vraiment de reproches à se faire et ils ne se font pas de reproches. C'est simplement une question de cœur, et donc on ne peut pas maîtriser ça.
Il lui avait demandé sa main.
Il l'avait évoqué. C'était
ils
pas officiel.
Le mariage.
On est en train de comprendre que Daniel Morin a lu le livre.
Pour une fois.
Tout à l'heure, il a parlé de la Croatie.
C'est vrai.
C'est le deuxième de la semaine,
plaisir,
je crois.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, on me fait pas de fiche, donc je suis obligé de les lire.
C'est pour ça que tu les lis pas si souvent.
C'est pour ça. Moi, dès qu'on me fait les fiches, j'arrête.
Deux parents en même temps.
En tout cas, David a raison de signer et d'apprécier, en effet, mais on l'a lu et en plus ça nous a plu. Elle espérait en tout cas qu'il lui demande sa main. Elle la tend à des élèves et notamment à un élève qui est en difficulté.
Ça, elle l'attend.
Et justement, il y a encore un problème de main ou d'autorité vis-à-vis de cet élève qui est celui qui est le plus en retard de la classe, mais qu'elle l'aide le plus, comme justement ayant un rôle extrêmement important de prof qui doit sauver.
C'est très important pour elle. Elle a elle-même le sentiment. Elle se demande à un moment donné si sa vie professionnelle peut remplacer sa vie sentimentale, l'amour qu'elle reçoit de ses élèves. Et c'est vrai qu'elle a aidé beaucoup cet élève-là et lui a offert un cadre, mais un cadre vide au moment où elle est quittée. Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la symbolique.
Un cadre photo, pas de photo dedans.
Ouais,
et au moment où sa vie est en train de se vider, sa vie affective,
c'est une image qui pour elle, elle se met à pleurer alors qu'elle n'a pas pleuré précédemment. Mais c'est vrai que finalement, la souffrance qu'elle va traverser, va lui faire perdre un tout petit peu, dans un premier temps, la réalité. Il y a une distorsion de la réalité, elle a le sentiment que les couloirs sont de plus en plus longs au lycée, et c'est vrai qu'elle va déraper, elle va faire une faute professionnelle, voilà, sans raconter.
On le raconte pas.
Et donc elle va, en plus, avoir cette double peine d'être écartée aussi du lycée.
Là, on était dans la première partie du roman, mais comme le roman s'appelle Deux Sœurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre ?
On se demande à un moment donné pourquoi ça s'appelle comme ça.
Elle s'est plantée de titre.
Mais elle est où ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que oui, il y a une sœur qui, elle, est mariée à un gosse et a une vie parfaitement cadrée, heureuse, et qui, elle, ne vit pas dans les livres, ne vit pas dans la culture, justement, contrairement à Mathilde. Et il va y avoir, dans la deuxième partie, cette main tendue, cette fois-ci, par sa sœur, qui va lui dire, mais écoute, moi, je suis ta sœur, tu peux pas rester comme ça. Je vois bien que de tourner dans l'appartement où cette histoire d'amour a eu lieu devant des objets qui étaient des objets en commun, même après le déménagement de l'ex, et des objets qu'il a pris en ayant le vice de ne prendre que ces objets à lui et de laisser les objets qui étaient en commun. Ça, c'est vraiment une torture supplémentaire. C'est comme s'il ne voulait rien de leur histoire passée.
C'est pas méchant.
Arrive la deuxième partie de ce roman, c'est-à-dire le rapport entre sœurs.
Mais en tout cas, c'est important, les questions pratiques, questions matérielles. C'est vrai que quand on est en souffrance dans une séparation, est-ce que voilà, il faut quitter l'appartement? Enfin voilà, c'est très très difficile. Et là où vous avez raison, c'est qu'il y a une obligation familiale d'entraide. Et c'est vrai que même si elles sont pas très très proches, à un moment donné, Mathilde se renferme tellement, est en train de presque dépérir dans l'appartement, et c'est sa sœur qui va devoir s'occuper d'elle, de la recueillir. Et là, pour moi, c'est le je vais pas dire le véritable sujet du livre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de totalement effroyable à l'idée de vivre dans un cadre qui était celui qu'elle aurait dû vivre. C'est-à-dire qu'elle se retrouve chez sa sœur, vient d'avoir un enfant, une petite fille, qui est mariée avec un mec super, et donc il y a quelque chose d'extrêmement violent à voir au quotidien, le film de la vie qu'on aurait dû avoir.
C'est deux traumatismes, c'est ça.
Oui, c'est déjà difficile d'aller mal, mais en plus, quand on a le bonheur de sa sœur qui vous saute au visage, il y a quelque chose qui fait qu'elle s'effrite.
Ah, il y a même un viol de la vie intime de sa sœur, puisqu'elle va lire le courrier, les lettres d'amour échangées entre son mari et elle. Et d'ailleurs, en plus, sa sœur est adorable puisqu'elle l'apprend, elle le voit, elle le sait, elle ne lui en veut pas, mais elle non seulement elle le voit au jour le jour, cette vie parfaitement équilibrée, belle, douce, agréable, fluide, mais elle se rend compte de la masse d'amour et de la manière dont si tu veux toucher Agnès, n'hésite surtout pas.
Surtout dans un moment aussi poignant.
Elle fête sa victoire, elle fête sa victoire de tout à l'heure.
Non, c'est mais pas là, se moucher, là. C'est un hymne à la sinusite.
Là, vous avez raison, c'est vrai qu'elle elle lui en veut pas du tout, sa sœur. Elle voit bien que voilà, elle voit bien le,
bah, pourtant,
elle
voit bien le malaise. Je connais des frères ou des sœurs qui pourraient très mal prendre.
Oui, mais on pardonne tout à quelqu'un qui est en souffrance comme ça d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a souvent la situation que quelqu'un qui cherche à vous aider devient aussi potentiellement coupable parce qu'il voit votre détresse. Et donc on disait tout à l'heure que face à une rupture amoureuse, il y a une fatalité, on n'a pas d'ennemi à combattre. Là, d'une certaine manière, elle va légèrement transformer sa sœur en bouc émissaire.
Et la jalousie va arriver, la paranoïa va être également présente avec en l'occurrence cette sœur qui est gentille, où tout va bien, va commencer à se poser des questions en disant mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment Mathilde, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle manipule ou pas les événements qui arrivent, ne serait-ce que les dates de concert.
Petit à petit, il y a des éléments qui commencent à mettre en doute vraiment l'attitude de Mathilde.
Alors ce qui est très compliqué, c'est qu'on a vraiment envie de vous donner l'envie de lire ce livre.
Dans 5 minutes, je vous donne la fin.
Voilà.
Merci Daniel.
Il y a plein de choses que l'on n'a pas dites et qui sont au début.
Comme l'intervention de la sœur, la sœur de la voisine, dont il faut parler, puisque c'est une descente aux enfers.
Pas la sœur de la voisine, la voisine.
La voisine.
Oui. La voisine, ouais.
Qui est psychiatre. Et c'est vrai qu'elle va, c'est une voisine, et elle est psychiatre. Et c'est vrai qu'elle a jamais, été chez une psychiatre. Et elle va la voir à minuit pour lui demander de l'aide et pour pouvoir dormir, justement. Et c'est vrai qu'elle lui fait une tisane nuit calme. Et elle se dit, tiens, mais c'est une sorte de
chez
mensonge.
L'éléphant.
Parce que si je pouvais boire une nuit calme, j'irais directement, quoi.
C'est génial. Non, et puis on peut parler d'intelligence artificielle. Il y a plein d'éléments, en tout cas, qui sont présents et qui reflètent encore une fois le talent de David Fuenquinos. Lisez-le, je vous assure. C'est un livre totalement dingue.
Et les notes de bas de page, vous allez, mais vous régalez. Il y en a plein.
On va y revenir à ces notes de bas de page.
C'est chez Gallimard et ça s'appelle Deux Sœurs. Et c'est vraiment un bonheur de le lire. Moi, le seul truc qui m'a énervé, c'est qu'il est court. C'est que j'avais envie que ça dure, que ça dure, que ça dure. J'avais pas envie de les quitter, ces sœurs-là.
Je vous donnerai mes brouillons alors.
Chiche.
Version longue.
On vous, c'est dit. Maréchal Ganache, c'est un succès ce livre.
Affirmatif que ça va avoir du succès. D'abord, tout ce que publie Monsieur Fuenquinos marche.
J'ai dit Fuenquinos.
Et alors, quand vous jouez au domino, Nagui, vous dites pas vous jouez au dominos. Hein? Quand vous matez des vidéos, vous dites pas des vidéos ou des pornos. Non. Alors laissez-moi dire à notre invité bonjour, Monsieur Fuenquinos, et bravo, oui, bravo pour ce roman exceptionnel par l'acuité et la précision de son analyse psychologique qui dépeint toute l'ambiguïté des sentiments d'une femme prise dans les méandres labyrinthiques de l'abandon, de la jalousie, vous l'avez dit Nagui, et de la séduction malgré tout. Une femme paradoxale car, in fine, moi je dis jamais au final, la question que pose ce thriller sentimental haletant n'est-elle pas « Qu'est-ce qui se cache vraiment au fond des cœurs ?» Ah bon Dieu ! Ah bon Dieu, j'aurais fait un critique littéraire de première bourre, Nagui.
Juste de bourre.
À France Inter, c'est au masque et la plume que je devrais briller, parce qu'ici, c'est peut-être le masque, mais c'est surtout la plume dans le cul. Mais il y a autre chose qui m'a bouleversé dans votre roman, Monsieur Fuenquinos. Ces deux sœurs m'ont ramené des années en arrière, quand jadis, moi aussi, j'ai eu affaire à deux frangines. Quand j'ai connu Edmond à La Châtre en 43, elle avait une sœur, Raymonde, qui lui était très attachée et qui ne la quittait jamais. Et pour cause, Edmond et Raymonde étaient sœurs siamoises, les fameuses siamoises de La Châtre. Pour des raisons que la pudeur m'interdit de développer, même la nuit, il m'était difficile d'entretenir une intimité amoureuse avec Edmonde sans réveiller Raymonde et surtout sans éveiller sa jalousie, la jalousie toujours, car Raymonde, dans le feu de l'action, n'était pas du genre mutique. Alors je vous l'avoue, Nagui, en proie au tourment de l'insatisfaction charnelle, j'ai alors hésité. Soit je me séparais d'Edmonde, soit je la séparais de Raymonde.
Quelle horreur.
Fût-ce à coup de machette. Comme quoi, moi aussi, je ne veux pas divulgâcher, précipiter. Précipiter, c'est le mot. L'issue de cette histoire, vous avez compris le clin d'œil, tout aussi palpitante que celle de M. Fuenquinos. Je m'en tiendrai là, d'autant plus qu'une mutilation ancienne, dont vous connaissez la nature, m'empêche de rester assis plus de 3 minutes d'affilée.
Ah, ça c'est donc, la seule bonne nouvelle de la journée.
Je dois vous quitter.
Merci. Bonne émission. Deux sœurs, David Fuenquinos. Revenons sur l'éducation sentimentale. Pourquoi cette prof de français enseigne l'éducation sentimentale? Et pourquoi avoir choisi cette œuvre? Parce que des œuvres où il y a des références affectives, amoureuses, ou des doutes, ou des chamboulements, il y en a énormément. Mais pourquoi celle-ci en particulier?
C'était,
pour
un,
vous
c'était un clin d'œil par rapport à mon passé, puisque j'avais fait mon mémoire sur Flaubert, mais plutôt sur la tentation de Saint-Antoine. Et aussi, plus symboliquement, pour voilà accompagner l'idée que cette femme vit dans le 19e siècle d'une certaine manière. Elle est dans un romantisme qui est, elle est pas du tout moderne, on voit bien dans le livre, même par rapport aux réseaux sociaux, à plein de choses, qu'elle n'est pas du tout en phase avec avec la compréhension des codes amoureux contemporains. Ouais, donc il y a que quelque chose de, ouais, de d'assez touchant, voilà, de vivre comme ça dans les livres. Elle dit à un moment donné qu'elle devrait vivre même dans un roman, ouais, pour être heureuse. Et puis là, voilà, le désarroi qui l'accompagne dans sa vie quotidienne.
Et en même temps, c'est le quotidien des lecteurs, ceux qui ont appris à travers les livres, parce que finalement, la première représentation de l'amour qu'on a, c'est soit à la maison, le couple parental, soit c'est ce qu'on lit, et on imagine que c'est aussi comme ça. Donc finalement, ça accrédite...
Oui, c'est son éducation.
Voilà, ça accrédite l'idée que cette éducation sentimentale, c'est la sienne en réalité, et qu'à avoir trop lu, on ne sera jamais heureux.
Oui, et puis c'est aussi une pique par rapport à sa sœur qu'elle estime baignée dans un bonheur lié à la culture. Ouais. Donc finalement, oui, elle a le sentiment que les malheurs viennent de là. Mais c'est vrai que Flaubert est tellement contemporain aussi. Ouais. À un moment donné, je parle beaucoup d'une expression qu'il y a dans l'éducation sentimentale, l'expression de curiosité douloureuse. Et c'est vrai que c'est sublime comme expression. Et on la vit au quotidien avec l'idée qu'on peut tout savoir de l'autre, aller chercher des informations sur le passé, sur le présent de la personne
mais
qu'on aime.
Et
que ça fait mal, forcément.
Sur les réseaux sociaux,
mais on aime avoir mal parfois.
Albert ?
Non, je voulais juste dire à propos de Flaubert, elle a un côté Madame Bovary, bien entendu.
Oui, complètement.
Dans son appréhension de l'amour et
surtout
et de la lecture.
Voilà, alors elle n'emprunte pas le même chemin, mais elle va aussi dans l'extrême. Donc ça, c'est certain.
Vous parlez des réseaux sociaux, elle a une camarade prof d'espagnol, si ma mémoire est bonne.
Ça ne sert à rien, l'espagnol.
Qui a des doutes même sur sa carrière et sur son utilité, mais qui gère sa vie sentimentale via des applications, via les réseaux et les Tinder.
Oui, il sait pas.
Pour des rencontres.
Il y a toujours quelqu'un, quand vous êtes désespéré, qui vous raconte sa vie et qui va tout faire pour vous dire, voilà, il y a plein de manières de rencontrer.
Pour vous éclabousser aussi un peu de son bonheur. Ou quoi ?
Oui, mais je crois qu'elle est surtout un peu stupide, cette Sabine, dans le roman. Mais c'est vrai qu'elle se rend pas compte de la douleur et de que vit Mathilde, et donc elle l'abreuve un peu de détails. Et c'est vrai que Mathilde, elle va totalement s'enfermer. Elle a du tout envie de rencontrer les gens qui vous disent faut reconstruire ta vie. Il y a quelque chose de tellement où faut refaire sa vie.
Vous dites même que le mot est violent.
C'est incroyablement violent. Ça veut dire quoi, refaire ? C'est-à-dire que la première est finie, anéantie. Il y a des mots qui sont comme ça, d'une violence, des expressions qui sont insupportables.
Mais au début du roman, Mathilde accepte quand même d'écouter toutes les histoires
elle a pas envie de prendre en charge la moindre conversation. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui parle beaucoup de soi quand on va pas bien. Jusqu'au moment où elle va réagir un peu plus tard dans le roman.
Ouais. Deux sœurs, David Fuenquinos le signe chez Gallimard. À vous de le découvrir, de le lire et de l'apprécier. Voici Agnès Hurstel enrhumée.
Ça doit aller mieux vu ce qu'elle a sorti.
Bonjour. Qui ici a peur en avion ?
Moi.
Okay. Moi.
Merci. Bravo.
Alors, attendez, moi ? Alors Daniel, oui.
Daniel.
Oui.
Albert.
Moi,
oui.
Aussi.
Okay. Oui, moi aussi, oui.
Les autres, je ne vous comprends pas. Enfin, j'envie votre crédulité. Je trouve ça merveilleux d'aborder le monde aussi naïvement, mais je ne vous comprends pas. Je pense que c'est un signe de santé mentale que d'avoir peur en avion. Moi, c'est un amoureux qui m'a refilé cette peur, comme on se refilerait une discrète MST. On s'aime, on se caresse, puis on se blesse, on se sépare. Mais c'est trop tard, le poison s'est distillé, les choses sont bouchées, la peur est installée. Maintenant, c'est moi qui pleure comme un bébé à la moindre turbulence, et ma peur grandit d'année en année. Parce que ma théorie, c'est que plus le climat se réchauffe, plus les hublots vont exploser, plus on va mourir écrabouillé. C'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de problèmes, non? Je dirais Ethiopian Airlines. Il y a 15 jours, il y a eu Turquie, New York. Il n'y a pas eu de mort, mais c'est quand même un problème. Tous ces Boeing pourris. Je n'ai aucune confiance, évidemment, dans les constructeurs Airbus. Ils sont là-bas, à Blagnac, Pénard, à fumer de la saucisse. J'ai le droit, je viens de Toulouse. Ma famille est là-bas, je suis Toulouse. Bref, il faut que quelqu'un les prévienne. Il faut que quelqu'un leur dise que le monde part à volo et qu'il faut qu'ils fassent des matériaux nouveaux. J'ai peur, évidemment, aussi des bruits. Les bruits de bip, de moteur, de ronflement du gars à côté. J'ai peur des gens qui ne mettent pas leur téléphone en mode avion, parce que j'ai peur que ça interfère avec la tour de contrôle. J'ai peur qu'un oiseau se prenne les plumes dans nos ailes. J'ai peur que mes voisins me volent les deux accoudoirs. J'ai peur que le pilote vienne de se séparer et qu'il ait vu juste avant de décoller une sale photo de son ex-femme avec son ami Luc sur Instagram et que ça le foute en l'air, le pilote. J'aimerais que tous les pilotes aient une vie intime sans turbulence, épanouissante. Ouais. Il y a quelques semaines, je suis rentrée seule d'un voyage de travail. Je pensais jamais dire cette phrase dans ma vie, c'est vraiment une phrase de vieille connasse. Ouais. C'était un voyage de travail, pas pour le plaisir, pas du tout. Et il y a eu des turbulences pendant littéralement 2h20 sur un vol de 5h. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. C'est-à-dire que je ne me cachais même pas, je pleurais comme un bébé. Il n'y avait que des rabbins autour de moi. Peut-être que je précise que c'était un vol Tel Aviv-Paris sur El Al Arise. Il n'y a pas un rabbin qui m'a apporté de l'amour, de la trina ou une petite berceuse en yiddish. Que dalle, les gars Joe, ils avaient trop peur, ils étaient en train de prier. Moi, je sais pas faire, donc je pleurais. Et sur El Al Arise, c'est dingue, mais WhatsApp marche. Je sais pas pourquoi, il y a du Wi-Fi, mais que sur... Incroyable, beaucoup mieux qu'en France. Donc, j'ai écrit sur WhatsApp, d'abord à mon mec, j'ai dit « Bébé, je vais crever !» Il m'a répondu un petit gif, une image animée d'un petit chaton avec une moustache et une kippa qui dansait la samba trop content que je crève. Du coup, j'ai écrit à ma mère « Bébé, je vais crever !» Et elle m'a répondu « Ma chérie, j'espère que tu es jolie sur ta photo de passeport, car ce sera celle-là qu'ils mettront sur l'hôtel de ville en souvenir de toi si l'avion se crache. Souviens-toi de Florence Aubenas. » Bon bah, on a les proches qu'on mérite. Hein. Donc, ça turbulait, moi je pleurais. Et j'arrêtais pas d'appuyer sur le bouton pour faire venir l'hôtesse qui évidemment ne venait pas me secourir. Au bout d'une heure, elle arrive enfin. Je ne me retiens même pas. Je lui dis quoi de mon ridicule. Je lui dis I'm so ridiculous, but I'm afraid because I'm gonna die. I'm sure we're gonna die and I don't take drugs anymore because I'm a new woman. So I just have my fleur de bac. But it's really bullshit. Et qu'est-ce qu'elle me répond, l'hôtesse?
Elle a des fleurs de bac, l'autre.
Elle me regarde avec ce physique à la fois doux des Israéliennes, mais cette brutalité. Et elle me dit oh, sweetie, so cute. How old are you? Et là, c'est vraiment la honte. Mais c'est bizarre, c'est-à-dire que l'humiliation de cette femme associée au trou d'air m'a fait péter un câble. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à un truc adulte, j'ai dit « I'm 16, madame !» Et donc, elle en avait rien à foutre, elle m'a collé deux whisky et elle s'est tirée réconforter les rabbins. Donc, j'ai une requête ce matin, si quelqu'un veut bien lancer une cagnotte litchi, un, pour que je me mouche, et deux, pour m'offrir un stage Air France. Je suis preneuse, ça coûte 680€, franchement, je les ai pas. Faudrait que je ponde 800 chroniques dans la semaine, il y a que Daniel qui sait faire ça. Parce que j'ai essayé dimanche, étant malade en quarantaine, une autre solution digitale sur internet, un cours en ligne de 3 heures proposé par EasyJet, 47€. J'ai parlé pendant 3 heures avec un commandant de bord EasyJet chauve, hyper sympa. Je vais encore plus mal qu'avant, maintenant j'ai peur des chauves. Bonne semaine.
Merci.
Tout est vrai.
Même ta mère.
Tout est vrai.
Non, c'est une amie. Non.
Et fleur de bac aussi.
Ouais, mais j'ose pas prendre de médoc sinon. Bref.
Les deux sœurs du moins, ce roman chez Gallimard signé David Fuenkinos avec de la musique. La musique est présente puisque il y a un concert qui sera aussi un moment de
suspicion.
Moment
déclencheur.
Où il va se passer des choses. Voilà. Musique classique.
Oui, des billets offerts pour la jeune fille et la mort de Schubert. Et effectivement, Agathe ne peut pas y aller ce soir-là, sa sœur. Et donc, elle va aller à la place de sa sœur.
Donc, elle va aller.
Est-ce que c'est fait exprès ou pas?
Avec le mari, voilà. Avec le mari de sa sœur au concert. La gentille sœur avec la vie parfaitement bien réglée, parfaitement heureuse et où tout va bien, où tout est fleuri, doux, calme. Même la fille, même le bébé est tranquille, il pleure pas la nuit, voilà.
Tout oui, et puis elle
c'est pas non plus la foire, ça ronronne.
Mathilde va s'en occuper de plus en plus. Elle va prendre
oui, parce
une
qu'elle
place.
Elle veut aider non, aussi.
En plus, elle dort avec elle, puisque c'est vrai que l'appartement est un peu exigu, donc elle dort dans la chambre de sa nièce. Et, oui, elle essaye un peu de
d'aider. Je suis un boulet chez vous, donc autant que je sois utile.
Voilà, donc elle essaye un peu d'aider jusqu'au moment où elle va créer une vraie relation avec cet enfant.
La musique est présente également dans votre vie. Vous écoutiez dans les années 70 France Gall.
Quand je suis sale et que je peux rêver, je rêve.
je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration.
Enfin, vous êtes né en 74, mais est-ce que France Gall faisait partie de la musique qu'on tendait à la maison, comme ça, jusqu'en 80?
J'ai découvert, moi, un peu plus tard, début des années 80, avec Hong Kong Star.
D'accord.
Donc, c'est cette époque, et des branches, quand elle bougeait la tête comme ça. Et après, je suis retourné dans le passé, et c'est vrai que je suis totalement fan absolu du Michel Berger, France Gall.
Pourquoi avoir choisi la déclaration d'amour?
Parce que c'est une chanson qui a été écrite en 74, donc c'est vrai que...
Date de naissance.
C'est mon année de naissance, donc c'était aussi pour marquer, voilà, par rapport à ce que vous m'aviez demandé de préparer. Mais moi, j'aime vraiment cette chanson.
C'est aussi l'arrivée au pouvoir de Giscard que vous saluez. Ouais.
Exactement, ouais. D'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'elle est belle de pouvoir dire des choses par la musique.
Et il y a un lien avec votre grand-mère. J'ai découvert
oui,
ça.
Oui, ma grand-mère était cuisinière et à un moment donné, c'est vrai que tout un été, ça fait plaisir que vous parliez de ça, elle a été...
Cuisinière Saint-Tropez.
Ouais, Saint-Tropez dans la maison de Michel Berger et France Gall. Et c'est vrai qu'elle en parlait avec
Pauline
tellement...
Et Pauline et Raphaël.
Oui, voilà, enfants, exactement. Elle me disait tout le temps à quel point ils étaient gentils.
Pour revenir sur le contexte familial, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas grandi dans un milieu où les livres étaient omniprésents. Au contraire.
Ah oui, vraiment. Après, on avait un autre type d'éducation.
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que ma mère travaillait à France, donc on voyageait beaucoup, on prenait l'avion, et j'avais pas peur de l'avion. C'est à partir du moment où j'ai commencé à payer l'avion que j'ai commencé à avoir peur de l'avion.
Donc, peur en business, je crois.
Voilà. Et puis, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, voilà, c'est comme ça. J'ai pas du tout été élevé dans un milieu culturel. Il n'y avait pas de livres, on n'allait pas voir d'expo. Voilà. Les premières choses, c'est avec mon frère qui était plus âgé que moi. Il m'a initié au cinéma. Mais c'est vrai que je me suis mis à lire à partir de 16 ans, quand j'ai été très gravement malade, j'étais opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital et c'est vrai que la littérature m'a accompagné, m'a sauvé d'une certaine manière.
C'était votre
évasion. Tous les gens qui ont été gravement malades, c'est vrai que connaissent cette propulsion qu'on a après vers la beauté ou vers les choses qui peuvent nous toucher émotionnellement.
En 2001, vous écoutiez... John Lennon, le plus rebelle, le plus rock de tous les Beatles, Instant Karma. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez Lennon?
Bah, au-delà de la musique et du génie musical, j'ai toujours été vraiment fasciné par sa vie. C'est vrai que c'est une enfance extrêmement triste dans l'Angleterre des années 50, abandonnée par sa mère. L'idée de cette fragilité absolue et que le succès ne va jamais penser d'une certaine manière. Même en étant l'artiste le plus reconnu au monde, il aura toujours cette fragilité qui me touche beaucoup.
Est-ce que c'est
beaucoup.
Pas cette fragilité qui lui a permis d'être l'artiste qu'il
Mais
a
complètement,
été
complètement. Et comment se construire justement par la rêverie, par la création pour pouvoir voilà, parce que c'est vrai qu'il a été abandonné par sa mère et puis après quand il l'a retrouvée elle est morte écrasée
par un bus
et il y a quelque chose d'extrêmement touchant je trouve chez John Lennon et puis cette histoire d'amour folle avec Yoko Ono qui m'a toujours aussi fasciné.
Est-ce que vous pensez que Yoko Ono est la responsable de la séparation des Beatles?
Non, je crois qu'elle a sauvé John Lennon. Elle a rencontré John Lennon à l'âge de 27 ans. Quand Lennon avait 27 ans, à un moment donné, beaucoup de rockstars, on connaît le mythe des 27 ans, Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain,
soit accident, soit suicide.
Oui, mais il y a beaucoup de morts à 27 ans. Vraiment tragique des 27 ans. Jim Morrison, enfin, c'est impressionnant. Ouais. Et je pense que quand on connaît la vie de Lennon, il était dans une léthargie totale après quelques années de Beatles mania, il devenait complètement c'est McCartney qui lui poussait toujours à refaire un nouvel album et c'est vrai qu'il rencontre à ce moment-là Yoko Ono qui devient sa mère, son mentor, son père qui vraiment façonne Lennon et le propulse vers la vie à nouveau. Donc oui, il dit qu'elle l'a aidé à rompre son mariage avec les Beatles.
Et 2001, pour vous, David, c'est la publication de votre premier roman, Inversion de l'idiotie de l'influence de deux Polonais, qui est salué du prix François Mauriac. Un manuscrit que vous avez envoyé un peu partout, et une seule maison l'a accepté, et vous rendez hommage à Jean-Marie Laclaftine, c'est Gallimard.
Oui, c'est quand même assez étrange. C'est vrai que déjà, mon nom était compliqué, Fuenkinos, le titre, Inversion de l'idiotie de l'influence de deux Polonais. Tout ça a été très compliqué. C'est vrai que je l'ai envoyé partout, il a été refusé partout. Et il y a Jean-Marie Laclaftine qui vient de publier un roman, d'ailleurs, je dis, vraiment formidable et émouvant, une amie de ma famille. Et, il dit, j'ai retrouvé la note en fait de lecture, on l'a retrouvée quelques années plus tard. Il dit, c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc, mais c'était complètement improbable pour moi.
Faut l'encadrer,
oui, de me dire refusé partout sauf par Gallimard. C'est comme si j'allais dans une soirée et qu'il y avait qu'une seule fille qui me parlait, la plus belle, quoi. Après avoir pris des râteaux toute la soirée. Et donc, c'est vrai qu'il a changé ma vie, mais c'est surtout que voilà, mes livres n'ont pas du tout rencontré d'écho au début. Et c'est vrai que c'était une maison qui a continué à me publier, à me soutenir. Et c'est vraiment avec La Délicatesse, qui était mon 8e roman, que j'ai commencé à avoir des lecteurs.
En 2008, célibataire, puisque vous parlez de râteaux dans la vie, en 2008, vous êtes célibataire et vous écoutez. Baby, I'm tired. Écoutez, Émilie Simon, célibataire, je ne sais pas si vous l'étiez en 2008, mais en tout cas, vous l'avez écrit.
Oui, voilà, c'était une pièce de théâtre.
Vous l'avez écrite,
Catherine Jacob,
donc,
voilà, et Christian Charmetan, qui était ma première pièce qui avait été jouée. Et c'est vrai que c'est le moment où je suis devenu assez obsessionnel d'Émilie Simon, et qui, après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, puisqu'elle a fait la musique de notre film, La Délicatesse.
La Délicatesse, ouais.
Et voilà, elle a écrit des chansons très, très personnelles, très, très fortes, très émouvantes, et c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Et elle me manque, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle n'a pas sorti d'album. J'espère qu'on va la retrouver.
Et deux célibataires dans cette pièce de théâtre qui tiennent une agence matrimoniale. Ça, c'est le. C'est
oui, un... ça n'existe plus trop maintenant.
C'est ça, voilà. c'est dépassé maintenant par la nouvelle technologie. Ouais. Est-ce que c'est déjà des prémices d'éléments de La Délicatesse ?
Ah, c'est étonnant parce que je l'ai écrit à peu près en même temps, mais en tout cas, l'idée que. La Délicatesse, c'était plus personnel. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari et qui traverse. Finalement, mon dernier roman, Deux Sœurs, c'est presque la version noire de La Délicatesse. Puisque dans La Délicatesse, elle va se recomposer en rencontrant un Suédois dépressif, joué par un Belge dans le film François Damiens.
Très maladroit.
Et voilà, et donc elle va renouer à la vie par l'humour, la fantaisie, la délicatesse, la poésie de cet homme-là. Et c'est vrai que dans Deux Sœurs, elle vit aussi une rupture, qui n'est pas un deuil, mais qui est tout comme, puisque elle considère que c'est la mort de son passé, cette séparation, et elle va se recomposer, elle va changer de vie, mais d'une manière un peu plus noire.
La mort est toujours présente, hein. Il faut qu'il y ait la mort dans vos romans.
Oui, je me suis rendu compte à quel point finalement c'était le thème central, parce que moi j'ai connu la mort quand j'ai été gravement malade, et je suis revenu à la vie, et c'est vrai que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'une certaine manière. Ça m'a propulsé, je le disais tout à l'heure, vers le goût des livres, de l'écriture, et c'est vrai que je me rends compte que dans tous mes romans, même s'ils sont très différents, il y a toujours à un moment donné la mort, une rupture, et même mon roman sur Charlotte Salomon, Charlotte, la mort est centrale dans son livre, et elle dit quelque chose de très très beau, Charlotte Salomon, elle dit qu'il faut être mort une fois pour aimer véritablement. Et c'est vrai qu'il y a toujours, en tout cas, ce moment de rupture et la
c'est
tentative
de
seconde vie.
De conjurer la mort, c'est une manière de la gérer, de l'apprivoiser.
Oui, et puis c'est très positif. Charlotte Salomon, moi, mon livre sur Charlotte, je suis tellement heureux. J'avais eu le Goncourt des lycéens, et du coup, il est beaucoup lu par les jeunes à l'école, et je vais beaucoup les rencontrer pour ça. Et c'est vrai que parce que pour moi, alors que la mort plane partout dans sa vie, elle a un exemple de courage, de beauté, elle fait une œuvre pleine de lumière, d'humour et de fantaisie, et justement la connaissance de la mort peut propulser vers la vie, la fantaisie et les choses joyeuses.
Alors justement, parlons de Charlotte, vous écoutiez à ce moment-là Sophie Hunger. Une valse pour personne.
Merci de la passer, parce que moi je suis un psychopathe de la langue allemande, et tout le monde me regarde en disant quoi, tu aimes la langue allemande, c'est la plus belle langue du monde, et c'est vrai que je mets cette chanson pour pouvoir vanter la beauté et la mélodie de la langue allemande. Et d'ailleurs, c'est une chanson qu'on a mis dans notre film, Stéphane et moi, Jalouse, notre film avec Karine Viard. Et les producteurs se demandaient, mais qu'est-ce que vous allez faire, une chanson allemande de 2 minutes en plein milieu du film? Mais je la trouve sublime. Et puis
Sophie,
les paroles valent.
Sophie Hunger, elle est parfaite. Et puis elle envoie du bois aussi, parce que là, c'est un titre très, très tendre, très, très doux. Mais
exactement,
elle
c'est pas toujours représentatif.
Ah non,
elle avait fait une super reprise de Le vent nous emportera aussi, qui était à la fin du.
J'ai
du film Ma vie de courgette. Ouais.
On parle de Charlotte, donc qui vous vaut le prix Goncourt des lycéens, le prix Renaudot. L'histoire de cette artiste juive assassinée à Auschwitz à l'âge de 26 ans. Elle était enceinte. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, on vous avait reçu pour ce bouquin, c'est la forme. C'est comment trouver la voix de Charlotte. Comment, par expérimentation, est-ce qu'on utilise la première, la troisième personne? À quoi ressemble la matière textuelle? Des phrases courtes, comme une forme de prose, de poésie.
Une phrase par ligne.
C'est vrai que c'est un livre, je raconte aussi ça dans le livre, c'est vrai que ce livre raconte toute la vie de Charlotte Salomon, une vie incroyable, mais aussi au bout de plusieurs années, parce que j'ai mis 8 ans à l'écrire, je l'ai abandonné tout le temps, je me suis rendu compte que je pouvais pas parler d'elle sans parler de mon rapport à elle, pourquoi elle me touchait, pourquoi elle me fascinait, et aussi la façon dont j'ai écrit ce livre-là. Et c'est vrai que je pensais que cette forme-là ferait que le livre serait confidentiel, mais ça n'avait pas d'importance pour moi, puisque je me disais que même si 100 personnes lisent ce livre, ça sera extraordinaire, ils vont découvrir qui était cette femme. Ouais. C'est vrai que la réception de livre a été au-delà de tous mes espoirs. Et c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une grande exposition à Nice, là où elle avait été arrachée à sa vie. Il y a un projet de film. Et que le livre soit étudié à l'école, au bac, ça, c'est pour moi magique. Et c'est vrai que je pense que même si je suis très très heureux de mon dernier livre et de tout ce que j'ai pu faire après, ça restera le moment Charlotte, le plus important de ma vie littéraire, ça c'est certain.
Deux sœurs, en tout cas, c'est le nouveau roman publié chez Gallimard, signé David Fuenquinos, avec cette rupture affective qui est le point de départ du roman et d'une nouvelle vie, peut-être pour Mathilde. Justement, Catherine, bonjour. Catherine Audibert, bonjour. On vous a demandé de venir à ce micro. Vous êtes psychologue clinicienne, auteur de Surmonter un chagrin d'amour et En sortir grandi aux éditions Le Duc 2007. Ça va se vendre comme des petits pains.
Bien joué.
Parce que d'abord, est-ce qu'il y a des ruptures, il y a quand même des ruptures amoureuses dont on ne se remet pas? Parce que vous, évidemment, vous faites un livre en disant on peut en sortir grandi, mais il y en a qui mettent KO.
Bien sûr, non mais je ne veux pas plomber votre émission.
Si,
elle était déjà plombée.
On était déprimés déjà. Bon, ça dépend toujours des fondations psychiques de chaque personne. Hein.
Alors justement, ça dépend
on
de quoi.
On n'est pas égaux devant la perte.
Alors comment savoir gérer un sentiment d'abandon quand c'est une rupture amoureuse, quand quelqu'un vous quitte ou vous trompe? Comment savoir le gérer? Ça ne s'apprend pas, il n'y a pas des cours à l'école pour ça.
Non.
Comment faire?
Alors comment, c'est toujours une question piège pour un psy, parce que ça dépend effectivement des personnes, ça dépend de toute leur histoire.
De notre propre éducation, de ce que
nos
parents...
Oui, mais je dirais, c'est ce qu'on voit très bien dans le livre de David aussi, il y a une résurgence à chaque moment de perte dans la vie, que ce soit voilà, une séparation ou un deuil, il y a la résurgence de toutes les pertes antérieures. Et
Mathilde est orpheline.
Vous n'avez pas en parlé jusque-là, mais qui est dans le livre. Il y a tout dans son livre.
Non, il y a une scène extrêmement violente qui est en ouverture, mais on veut laisser au lecteur aussi le plaisir de découvrir des choses qu'il n'aura pas forcément entendues à la radio. Mais c'est vrai que la mort de ses parents va énormément jouer. Ceci étant, il y a deux
même
sœurs.
Même être quand même assez décisif.
D'accord, je ne vais pas tout dire. Il y a deux sœurs, les deux ne vont pas vivre ce deuil de la même manière.
Non, bien sûr, puisqu'il y en a une qui est épargnée du traumatisme et pas l'autre. Donc c'est ce qui fait toute la différence. C'est vrai que...
c'est pas parce qu'on dort pendant que on apprend la mort de son
bien
père
sûr.
qu'on le vit mieux au réveil.
Absolument. Mais là, si on parle de Mathilde, elle le vit comme une injustice. Elle vit l'injustice va se répercuter.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Non, mais je faisais pas une analyse du livre. Vous me dites deux enfants.
Elle est moins touchée. Elle est pas épargnée. Elle est un peu moins.
Le même
touchée.
Choc n'a pas l'impact.
Elle est pas touchée de la même
impact.
Façon.
Voilà.
Et le sentiment d'injustice, parce que c'est vrai que quand on vit un chagrin d'amour, il y a aussi un très fort sentiment d'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis Il y a le sentiment aussi d'être devenu un déchet, quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y a une grosse blessure narcissique.
C'est ce que j'allais vous demander. C'est l'ego qui est d'abord touché. C'est de se dire je suis abandonné,
aussi.
Je suis la faute, je suis rejeté.
C'est-à-dire que vous perdez plein de choses en perdant l'autre. Vous perdez le sens de votre vie. Vous perdez votre miroir aussi, puisque quand on se met en couple, l'autre est votre miroir qui vous donne confiance, effectivement.
Alors, est-ce que la solution, c'est de dire quoi celui ou celle qui me quitte, ne me méritait pas, c'est lui ou elle qui a tort, et moi je reste quand même une
ça
personne
peut arriver,
bien.
Ça peut arriver. Alors, voilà, ça, on revient toujours aux fondations d'avant. Il y a des gens qui vont s'en remettre plus facilement que d'autres, parce que la blessure narcissique ne va pas créer un effondrement. Ouais. Mais chez certaines autres personnes, ça crée vraiment un effondrement, une rupture, une déchirure psychique qui fait que il va y avoir des conséquences après à cette déchirure.
Quel est le premier conseil que vous donnez à ceux qui subissent une séparation? C'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi cette séparation a eu lieu et tout de suite passer à autre chose? Ou c'est au contraire de tout analyser, de tout mouliner en essayant de comprendre quels étaient les signes peut-être prémonitoires qu'ils pouvaient avoir
vécu? Je pense qu'on a besoin de retrouver du sens. Le sens a été perdu parce que voilà, vous étiez en couple, l'autre... c'est la complétude et tout d'un coup, sans l'autre, vous retournez à votre unicité. Donc, toute l'illusion que vous aviez mis dans ce couple, vous la perdez. Et il y a besoin de retrouver un sens à votre vie qui a disparu avec la perte de l'autre.
Ah, est-ce qu'il faut faire table rase du passé et passer à autre chose?
Absolument pas.
Faire une carte de la ville dans laquelle on a vécu en évitant de retourner dans les mêmes lieux, les mêmes restaurants, les mêmes musées qu'on a visités, les mêmes promenades à pied.
Il y a des gens qui y vont.
Au contraire.
Il y a des gens qui y retournent.
Pour conjurer le sort, pourquoi?
Peut-être d'une certaine façon, il y a aussi une espèce de besoin de s'accrocher à ce qu'on a vécu, pas pouvoir le voir disparaître tout de suite. Donc même si ça fait mal, on y retourne. Et aussi peut-être dans l'illusion qu'on va pouvoir récupérer quelque chose de ce qu'on a perdu.
Alors c'est ce qu'elle a un peu aussi Mathilde, l'illusion de se dire qu'elle peut récupérer son Étienne. Elle pense même à de la vengeance, elle fait même des filatures pour l'espionner, pour observer, pour savoir comment ça se passe. Il y en a qui deviennent totalement dingues comme ça, paranoïaques.
La jalousie tient une place importante quand même dans les ruptures. Hein. Ça peut déclencher des flambées de jalousie quelquefois qui sont incontrôlables. Donc il y a ça à apaiser. Enfin, il y a tout un tas de sentiments qu'il faut pouvoir apaiser. Qui font une douleur globale, on va dire. Mais c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Enfin, dans un premier temps, c'est vrai que même si on va pas forcément chez le psy quand on est dans un chagrin d'amour, trouver des oreilles bienveillantes qui écoutent,
qui font office de psy.
Bah oui. Qui écoutent. Il suffit peut-être pas de grand chose d'autre. Oui, ouais. Sauf que la sœur, là, elle est. C'est peut-être pas l'oreille qu'il faut à ce moment-là.
En tout cas, elle écoute.
Oui.
Après que ça blesse plus Mathilde parce que elle a réussi entre guillemets sa vie et pas Mathilde, c'est un autre problème. C'est un problème de jalousie.
Je ne sais pas si elle écoute. Elle fait en sorte d'être là, mais justement, il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui ne peut pas se dire entre elles, vu le passé qu'elles ont toutes les deux. Et par contre, voilà, il y aurait des choses à dire justement du côté de Mathilde pour pouvoir symboliser ce qu'elle vit intérieurement et ne pas tomber dans un acting.
Alors,
quoi.
Donc on raconte la fin dans 1 minute 40.
Non, non, non,
on a compris. Approchez-vous là.
On a compris qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait un problème d'ego, qu'il y avait aussi un problème d'éducation ou de terrain plus ou moins favorable, la manière dont on pouvait vivre une séparation. Est-ce qu'il est possible de reprendre l'histoire d'amour après une séparation, ou est-ce que lorsqu'il y a eu comme ça cette fêlure, lorsqu'il y a eu cette tasse de porcelaine brisée, on a beau la recoller, il y aura toujours la cicatrice?
Il y aura toujours la cicatrice. Même si une histoire d'amour peut reprendre après, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc, bien sûr, après, on peut essayer de transformer ça, mais on ne peut pas dénier ce qui s'est passé, donc...
Donc, mauvaise idée, bonne idée de se remettre avec quelqu'un. Donnez-nous des indices, s'il vous plaît.
Cochez la case.
Oui.
Non, visiblement, mauvaise idée.
J'aurais tendance à penser que c'est une mauvaise idée. Mais
est-ce qu'un chagrin d'amour peut être utile? Est-ce qu'on peut sortir grandi? Parce que vous avez écrit « sortir grandi ». Est-ce qu'on peut sortir grandi d'un chagrin d'amour?
Ouais, enfin bon, le titre, c'est pas de moi.
Catherine, c'est un vœu.
Ça donne envie de l'acheter juste pour cette phrase. J'adore.
Non, mais bien sûr, plus, parce, ouais. que, parce qu'on on reprend quand même toute une partie de notre histoire pour mieux se connaître. Et effectivement, c'est quand même ce qui permet, au bout du compte, de reprendre le risque d'aimer. Parce que sinon, on s'enferme. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé, on peut répéter ça indéfiniment. Ouais. Et mieux vaut savoir.
À défaut de ne pas avoir écrit le titre, vous avez écrit le livre.
Absolument.
D'accord.
Donc je ne renie pas le livre.
Voilà. Surmonter un chagrin d'amour et en sortir grandi, c'est aux éditions Le Duc. Merci d'être venu à ce micro, Catherine Audibert. Tanguy Pastureau, ça va Tanguy ?
Ça va et vous ?
Très bien.
Bon.
Que devient Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan ?
Eh ben,
T'avais peur que je le dise ?
Non, c'est un petit piège. Ouais, voilà, je m'amuse un petit peu. Il est parti à la retraite, Nagui, mardi, après 30 ans au pouvoir, puisqu'à chaque élection, il était réélu par un peuple d'autant plus motivé à voter pour lui que s'il le faisait pas, il finissait en tapas.
Bah oui.
Alors, petit cadeau de départ, la capitale du pays, Astana, a été rebaptisée de son prénom, Nursultan. Heureusement qu'il ne s'appelait pas René, parce que ça aurait fait un peu vieillot pour une ville.
Oh. Voilà. On embrasse tous les René qui nous écoutent.
Bon, oui,
et ils sont nombreux sur France Inter.
Ils sont nombreux.
On en parle après les infos de midi. Vous qui l'avez dit.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature ? Plus de 50 écrivains répondent. Une sélection de 30 grands romans pour comprendre notre temps, la crise sociale décryptée par l'historien Gérard Noiriel et une masterclass de Riyad Satouf. Papier à retrouver en kiosque et en librairie. France Inter aime
Les voyages extraordinaires de Jules Verne, une collection Le Monde. Voyager dans l'espace, explorer les profondeurs des océans avec l'intégrale des voyages extraordinaires de Jules Verne. Redécouvrez l'œuvre romanesque d'un visionnaire de génie qui anticipa avec justesse les progrès technologiques du XXe siècle. Une édition de luxe reproduisant les gravures d'origine et les cartonnages au fer doré, fidèles à la mythique collection Hetzel. Les voyages extraordinaires de Jules Verne, une collection Le Monde, un partenariat France Inter.
Vous êtes bien sur Inter et il est midi. Les informations, Lucas Caltritti.
Bonjour. Le Sénat saisit le parquet à l'encontre d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et de trois hauts responsables de l'Élysée. Il s'agit notamment du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'Élysée ainsi que du chef du groupe de la sécurité de la présidence. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont visés pour des déclarations sous serment susceptibles de donner lieu à des poursuites pour faux témoignages. Après un peu plus d'un an de discussion avec les partenaires sociaux, des ministres disent que la question de repousser l'âge légal du départ à la retraite au-delà de 62 ans est désormais légitime. Emmanuel Macron disait pourtant le contraire lors de sa campagne. Hier encore, le Premier ministre a exclu cette possibilité. Alors, où en est-on vraiment ? Le haut commissaire à la réforme des retraites est venu faire le point ce matin sur France Inter. Écoutez Jean-Paul Delevoye.
La liberté de partir restera 62 ans. Et ensuite, nous avons très clairement voulu concilier deux choses. Parce que, en été, quand on recule l'âge de la retraite, on a une approche budgétaire. Quand on allonge la durée de cotisation, on recule l'âge. Sur l'âge de départ, il y a un âge où l'équilibre du système, c'est plutôt 63 ans et demi. Donc, nous avons mis en place la liberté de choix à partir de 62 ans et en disant aux personnes, si vous souhaitez partir un peu plus tard, on va majorer vos points de pension. Mais il y a une dimension sociale à 62 ans.
Le haut commissaire à la réforme des retraites. Les parents d'Arthur Noyer connaîtront-ils un jour la vérité ? La reconstitution du meurtre de leur fils a eu lieu cette nuit en présence de Nordal Lelandais, déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys. Nordal Lelandais est donc mis en examen pour l'assassinat du jeune caporal de 23 ans dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Il a avoué l'avoir pris en stop, parle d'une bagarre qui aurait éclaté, d'une chute qui aurait entraîné la mort d'Arthur Noyer. Cette reconstitution a duré une bonne partie de la nuit. Elle a commencé à 2h du matin à Chambéry jusqu'à 9h. Rien n'a filtré de l'enquête de ce que Nordal Lelandais a pu dire, s'il a maintenu sa version des faits ou non. Mais les étapes, les temps d'arrêt de cette reconstitution ont parfois parlé d'eux-mêmes, Jade Péchira.
Le premier arrêt de ce parcours a lieu à quelques centaines de mètres de la discothèque où Arthur Noyer passe sa dernière soirée, au bout de la rue de la République, sur un rond-point. C'est ici probablement que le jeune caporal monte dans la voiture de Nordal Lelandais. Plus intéressant encore, le deuxième arrêt de cette reconstitution qui a lieu à Saint-Baldoff, à 6 km de Chambéry. Le convoi y reste pendant plus de 2h30 cette nuit. Nordal Lelandais a-t-il parlé ? S'agit-il du lieu du crime ? Vient ensuite le col de Marocaz, au pied du massif des Bauges, là où l'ancien maître chien se débarrasse du corps d'Arthur Noyer. Il est 6h15 et tout le monde pense que la reconstitution est terminée, sauf que le procureur de la République de Chambéry assure le contraire. La petite camionnette blindée et son cortège de gendarmes ne réapparaîtront pas avant 8h45, sans que l'on sache où s'est rendu le convoi, ni s'il faut ajouter une nouvelle étape à ce parcours macabre.
Les précisions de Jade Péchira. Un adolescent de 17 ans, soupçonné d'être l'auteur d'un viol en pleine rue au début du mois, a été interpellé. Il était recherché depuis près de 3 semaines. Le jeune homme a été arrêté à Saint-Étienne. En rentrant d'une soirée, il aurait forcé une jeune femme à lui faire une fellation en pleine rue. Votre première mission, maintenir l'ordre public dès samedi. Voilà la première consigne du ministre de l'Intérieur au nouveau préfet de Paris. Christophe Castaner lui demande de faire preuve d'une impunité zéro après les violences de samedi dernier sur les Champs-Élysées. Didier Lallement, le préfet de police, a été intronisé ce matin après le limogeage de Michel Delpech à la suite des violences, des saccages et des pillages commis samedi à Paris. Le suspect de la fusillade d'Utrecht aux Pays-Bas va comparaître pour des meurtres terroristes, annonce le parquet des Pays-Bas. 3 personnes ont été tuées lundi dans cette fusillade. Une pétition qui réclame le retrait de l'article 50 et l'annulation du Brexit vient de passer les 600 000 signatures et ce en une seule journée. Elle a été mise en ligne sur le site du Parlement britannique et ce n'est pas anodin. Si une pétition déposée sur cette plateforme dépasse les 10 000 signatures, le gouvernement doit y répondre. Et si elle est signée par plus de 100 000 personnes, alors le Parlement est obligé d'envisager la tenue d'un débat sur le sujet. Alors qu'aujourd'hui se tient un Conseil européen au lendemain de la demande de report de 3 mois du Brexit par Theresa May. L'Allemagne et la France notamment se sont dit favorables à un court délai supplémentaire. En Italie, un carnage évité de justesse pour 51 collégiens. Ils étaient pris en otage et menacés dans un bus près de Milan par leur chauffeur. Un Italien d'origine sénégalaise, avant d'incendier le véhicule, il a mentionné le sort des migrants africains morts en Méditerranée.
Ce dimanche sur France Inter, à partir de 22h...
Fallait-il être assez doué pour vous emmener à Douai ce dimanche ? Cet excellent jeu de mots, fleurbon l'humour du dimanche soir quand la tendresse s'en va toute seule et que les mots sont fatigués. Dimanche soir, nous serons à Douai ou Douai. Comment prononce-t-on le nom de cette ville étrange ? Où nous serons là en chair, en os et plus si entente dès dimanche. Je crois qu'on l'a bien vendu, les gars, là. Là, je peux te dire qu'ils vont être contents, France Inter.
Lumière dans la nuit, à Douai.
À Douai ou Douai.
En direct et en public à la taverne Les Graisses, de Place Saint-Amé.
Au peuple de France, bien nombreux.
Ce dimanche sur France Inter, à partir de 22h.
Chérie, j'y vais, j'ai une affaire brûlante à régler.
Brûlante ? Comme la braise ? Ah, je vois, c'est la Saint-Philippe et ses offres exceptionnelles sur les cheminées et poêles Philippe.
Offre spéciale Saint-Philippe jusqu'au 29 mars. Cheminées, poêles à bois et à granulés. Philippe, la qualité, les meilleurs prix. Magasin participant sur cheminéephilippe.com.
France Inter, M.
Sérimania, le festival 100% série, revient à Lille du 22 au 30 mars avec un programme foisonnant. Séries internationales en avant-première mondiale, expositions, animations en réalité virtuelle, ateliers pour petits et grands, soirées clubbing, sans oublier des invités exceptionnels. Uma Thurman, Freddy Highmore, Anna Paquin, Laetitia Casta, Sergi Lopez, Marina Hans, présents tout au long de ces 9 jours de fêtes et de découvertes. Le festival Sérimania, du 22 au 30 mars à Lille, un événement France Inter.
Ouais, tu t'es chauffé un truc. Vous écoutez France Inter, il est 12h passé de 6 minutes et c'est la suite de la bande originale, Nagui.
Merci Lucas Caltritti, que nous retrouverons toutes les heures cet après-midi et avant le journal à 13h présenté par Bruno Duvic, ou pas ?
Exact.
Vous me confirmez ?
Merci. Je confirme.
Merci pour cet enthousiasme, Lucas. On vous retrouve tout à l'heure. Mangez bien, pas trop, mangez sain, mangez bio et à tout à l'heure.
Bonjour à tous.
Agnès Hurstel, Tanguy Passureau,
bonjour.
Daniel Morin,
ah, bonjour Nagui,
Albert Aldou et notre invité Louis Guillermo, il est parti. Ah non, c'est
on est là demain.
Ah oui, il est demain. Et notre invité David Guillot. Parce que j'ai vu passer.
Et il sera même très drôle.
Il vient demain, très bien. David Fuenkinos, justement, il y a de l'humour aussi dans votre livre. On a peur, on s'inquiète, on se pose des questions sur soi aussi, sur comment on ferait si on était Mathilde, qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs, et que ce soit deux sœurs ou deux frangins, on se pose exactement les mêmes questions. Vous aviez envie d'ailleurs de ne pas rentrer, comme on l'a évoqué avec Delphine de Vigan, trop dans les détails pour qu'on puisse s'identifier à certains de vos personnages?
Oui, en même temps, c'est une histoire particulière. Ce qui m'intéresse, c'est son parcours, Mathilde, et comment elle affronte sa situation. Et c'est vrai que elle va aller très loin.
On ne voit pas comment physiquement, mais comment... ils ou elles sont. On voit pas. Il y a pas de détails physiques sur la taille, le poids, la couleur des cheveux,
C'est très important pour moi aussi de laisser cette forme de liberté. Vide, et c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie, la profondeur de ce qu'elle peut vivre et son désarroi et jusqu'où elle va aller. Mais c'est vrai que je décris pas plus que ça les personnages.
Elle est tellement... un moment par le biais de sa sœur, qui est un petit peu jalouse d'elle.
Oui, elle se compare physiquement.
Ah non, savoir qui est plus, de l'autre.
Un tout petit peu.
Ouais, exact.
Daniel Morin l'a vraiment lu attentivement.
Mais
quoi.
Il a même appris par cœur.
Une passion.
Et dire qu'il va révéler la fin.
25 secondes, je donne la fin. Accrochez-vous les amis.
Alors, en fait, c'est pour ça qu'il l'a lu, juste pour spoiler.
Ça, c'est du teasing. C'est même pas la fin d'ailleurs, c'est avant la fin. Parce que j'ai presque envie de dire, il y a deux fins dans ce livre. David Fuenkinos, vous attachez beaucoup d'importance aux réseaux sociaux, vous les évoquez, ces réseaux sociaux, leur présence ou leur inutilité, les portables aussi, on évoquait avec Leïla le coup, moi aussi j'ai aimé le coup du SMS.
Du SMS, ouais. Où elle enseigne, elle est encore en poste et elle attend pour se laisser le plus de chances possible d'avoir une trace de vie d'Étienne, un message, et quand elle tombe sur son téléphone et qu'elle voit qu'il est vide, c'est un désespoir encore plus grand, c'est une forme de souffrance moderne.
Oui, elle attend tout le temps un message et puis après, plus tard, quand ils se sont séparés, elle analyse chaque mot du message comme une sorte d'exégèse.
Intelligemment.
Oui, elle se dit, tiens, là c'est positif, ça c'est négatif.
Il a dû mettre du temps, il a bien choisi les mots. S'il a envoyé ce texte-là,
il dit, je t'embrasse.
Chaque mot compte, il est bienveillant, mais en même temps, il signe pas par son prénom. Enfin, il y a quelque chose de terrible dans l'analyse. Mais c'est vrai que si on parle des téléphones portables, c'est vrai qu'elle attend. D'une manière absolument, je ne vais pas dire pathétique, mais c'est triste parce que c'est vrai qu'elle attend un message. Et il y a l'idée que comme on est potentiellement tous reliés les uns aux autres avec le téléphone portable, ne pas avoir de message, ça souligne la solitude. Ouais. C'est une façon presque physique de ressentir l'absence de l'autre.
Et dans un couple, de ne pas envoyer de message est un signe violent de dire « j'ai pas envie de te parler là-bas ».
Exactement. Ouais. Donc tout ça parce qu'on est potentiellement tous reliés tout le temps.
Et puis il y a d'autres éléments aussi du quotidien qui vous rappellent votre célibat, donc qui vous rappellent votre rupture amoureuse. C'est par exemple cette carte de cinéma, cet abonnement qu'on prend, qu'on a pris à deux, vraisemblablement, parce qu'on adore aller voir des films, n'importe quoi, et puis on se retrouve avec cette carte.
Toutes les offres promotionnelles, des trucs, des cartes duo, tout ça, en fait au début ça paraît très rentable, mais ils misent juste sur le fait qu'un jour ou l'autre vous allez vous faire larguer.
C'est ça.
Et ça sera plus du tout rentable.
Mais c'est drôle cette réflexion sur le marketing, l'attente du désespoir, parce qu'on se dit comment ils s'y retrouvent financièrement. Parce que vraiment, quand on va voir 10 films à deux tous les mois, la carte,
ils savent qu'au bout d'un moment, et puis quand on est vraiment au fond du trou, on va pas commencer à aller faire une lettre recommandée, quoi.
Non.
Pour se désabonner, quoi.
C'est comme pour la salle de sport, quoi. C'est pareil.
Exactement.
Ouais. Deux sœurs, le nouveau roman brillant de David Fuenkinos, et le roman et l'auteur, d'ailleurs, les deux sont brillants, c'est chez Gallimard. Voici Tanguy Pastureau. Donc c'est décidé, nous partons pour le Kazakhstan.
Oui, le Kazakhstan, c'est cet immense pays d'Asie centrale où il n'y a rien à faire, comme dans la plupart des coins du monde, sauf en Corrèze où on peut observer en mangeant des chips la lente décomposition de François Hollande, assis jour après jour sur le banc du boulodrome extérieur de Tulle et qui se fait picorer par les corbeaux. Le Kazakhstan, c'est chiant. Tel pourrait être le slogan de l'office du tourisme local si jamais il était dirigé par des gens honnêtes. Le Kazakh lui-même n'est pas un énorme déconneur. Il mène une vie morne en compagnie de la Kazakh qui, en fonction de sa chaleur corporelle, change de couleur. On parlera alors de la Kazakh jaune, de la Kazakh rouge ou de la Kazakh bleue si elle s'étouffe en bouffant un donut. Hein, il faut dire que les donuts là-bas ont la forme du dictateur local, Nursultan Nazarbayev, et qui sont donc très durs à avaler, à l'instar de la politique de Nazarbayev, cet autocrate cintré qui, comme tous les psychopathes, est un ami de la France. Hein, il faut dire que Kazakhstan, il y a du pétrole et du gaz naturel, et que nous, on est des gens simples. Hein. Vous apportez à l'Elysée 4 jerrycans, ras la gueule en disant derrière, il y en a 7 millions qui suivent.
Le président, quel qu'il soit, tombe à genoux et dit au tyran, mon amour, fais de moi ta chose, ta petite chienne, je suis à toi, je t'aime. Nous, on s'est habitués, mais pour des gens qui vivent en démocratie, par exemple, ça peut sembler énorme. Bref, tout se passait bien au Kazakhstan. Nazarbayev, depuis 30 ans, était réélu à chaque scrutin, une popularité démentielle. 99% des voix à chaque fois. Nous, en général, 7 mois après l'élection, on n'en peut plus de notre chef d'État. Mais le Kazakh est constant. Quand soudain, mardi, patatras, ou Nazarbayev, comme on dit au Kazakhstan, puisqu'un seul mot est autorisé, le nom du dictateur. Ainsi, la phrase « ça va ce matin » au Kazakhstan se dit « Nazarbayev, 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 Nazarbayev ». Soudain, mardi, disais-je, Nazarbayev a démissionné. Le Kazakh effondré, parce qu'il a autant l'habitude du changement en politique que Mireille Mathieu en ce qui concerne sa coupe de cheveux, dit alors à la Kazakh, pivoine, « Nazarbayev, Nazarbayev, Nazarbayev !» Ce qui signifie « bordel de Dieu, que va-t-on devenir ?» Hein, il y a un micro dans chaque maison, donc il faut parler en bien de Nazarbayev. Si un samedi, il y a un discours de celui-ci à la télé et que vous dites « Tiens, je vais mater The Voice, j'adore Julien Clerc, c'est le seul senior que je me taperai facile parce qu'il est sexe », on vous empale sur un pieu ayant la forme de Nazarbayev. Or, celui-ci a le crâne très rond, donc ça peut durer longtemps. Nazarbayev a 78 ans, il est fatigué, donc il se retire. Mais il a nommé son successeur, un certain Kassym Jomart Tokayev, hein, un petit jeune de 65 ans.
C'est toi qui as cherché à l'avoir.
Voilà, frais comme un gardon, hein, ou au moins comme un bâtonnet de Colin Captain Iglo, oublié dans le congélo en 96. Alors attention, Nazarbayev le vieux ne raccroche pas tout à fait ses dents sur le bord du verre, puisqu'il conserve la présidence du parti au pouvoir et celle du Conseil de sécurité. Il peut tirer, hein, comme dans Mario Kart quand vous avez la tortue rouge, mais avec des missiles. Et il a le titre de père de la nation. C'est lui qui a enfanté le Kazakhstan. En 85, il a fait l'amour à la terre, hein, en juin, parce que l'hiver le sol est gelé. 9 mois après, il y avait des villes partout. En tant que père de la nation, on ne peut pas le toucher. Il est comme Jean-Luc Mélenchon.
Et quelle a été la première décision prise alors par le remplaçant Tokayev?
Eh bien, c'est très beau, Nagui. Les dictatures ont le sens du symbole. Il a renommé hier la capitale du pays, Astana, du prénom de Nazarbayev, Nursultan, qui signifie sultan de lumière. Ce qui rend ce prénom plus intrigant que Jean-Luc, par exemple, qui signifie juste Jean-Luc. Alors, en français, arrivé aux abords de l'agglomération, on dira donc « j'entre dans sultan de lumière », ce qui, niveau tournure, donne l'impression qu'on a une relation intime avec un des bourrins qui court à Vincennes. Ainsi, en plus, on le dit à une Kazakh verte parce qu'elle a la gastro, ça fera une journée thématique. Fini Astana, la capitale s'appelle Nursultan. Avant, elle s'est déjà appelée Akmolinsk, Tsenolingrad, Akmoka, Astana et donc maintenant Nursultan. Bref, quand vous demandez à un habitant du Caen et les Bites, il répond « je sais plus trop », comme Olivier Kersauzon en fin de soirée, du côté de l'Orient. Et c'est là qu'on se dit qu'heureusement, en France, ne s'est pas installé un dictateur taré, même si Éric Drouet pense ça, parce qu'il ne pense pas. Puisque Macron, dans un accès de confiance en lui-même dont il a le secret, aurait pu renommer Paris Emmanuel. Et ça aurait fait comme avec Avignon. On n'aurait jamais su si on devait dire « je vais à Emmanuel » ou « je vais en Emmanuel ». Phrase prononcée par Brigitte en 2002 lors d'un jeu érotique qui ne concerne que ce couple. Quant au Kazakhstan, c'est pas grave qu'Astana devienne Nursultan, parce qu'Astana signifiait capitale, alors que c'était la capitale. Enfin, les mecs, c'était pas foulé. Hein, le Kazakh, trop souvent, tombe dans la simplicité. Enfin, à noter que la fille de Nazarbayev, Dariga, 55 ans, a été nommée hier présidente du Sénat par son père. Une belle carrière. Elle a franchi les échelons step by step, comme on dit chez les Mongols. Hein, c'est-à-dire que mardi, elle était chez elle, en train de somnoler devant Nazarbayev TV, hein, qui retransmet 24 heures sur 24 une image fixe de Nazarbayev. Et mercredi, elle devenait l'équivalent de chez nous de Gérard Larcher, hein, ce monsieur qui la plupart du temps dort, sauf les week-ends où il se repose. La dictature est donc le seul symbole où la méritocratie existe encore. Il suffit d'être l'enfant du dictateur, enfin, c'est un détail. Hein. Alors, comme on dit au Kazakhstan, Nazarbayev, 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 ce qui veut dire dépêchez-vous de venir avant que ça change encore de nom.
David Funkinos signe Deux Sœurs, son nouveau roman chez Gallimard. Tout part d'une séparation et de là naissent des sentiments que l'on ne connaissait pas ou que l'on ne pensait pas connaître, comme la jalousie, comme la paranoïa, comme la suspicion, la magouille, la haine, la vengeance.
Oui, tout ça c'est lié à la souffrance, ouais. La souffrance qui la propulse vers une autre personnalité où elle va se découvrir elle-même, parce que c'est vrai que je raconte au début qu'on parle d'elle comme la bonté incarnée, ouais. C'est vrai que la vie s'acharne contre elle, et pour pouvoir survivre, elle va changer progressivement de personnalité.
Albert. Et puis il y a des détails aussi apparemment insignifiants, mais qui ont une grande importance, comme balayer une mèche,
qui une image qui balaye un visage.
Oui, un geste d'amour qui va la fasciner.
Et on va retrouver ce geste d'amour
comme une signature.
Voilà, comme une signature.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de vous, pardon, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un auteur dans un roman.
Le bonheur. Parfois, vous savez, quand on est heureux, on peut potentiellement imaginer l'effroi de perdre. Non, pas de prendre du plaisir, mais imaginer l'effroi que peut représenter la perte de ce bonheur-là.
Donc c'est une manière, alors de la même manière que vous parlez de la mort comme pour conjurer la mort, pour l'apprivoiser,
ouais, ça peut être ça.
Vous parlez du malheur.
Mais moi j'ai l'impression
protéger...
d'être en tout cas partout dans tous mes personnages. C'est-à-dire que ce qui m'excitait aussi vraiment, c'est que c'est vrai qu'elle va très très loin, Mathilde. On raconte pas. Daniel Morin va éviter de raconter la fin du livre. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était que ça soit plus complexe. C'est-à-dire qu'on ait de l'empathie presque pour elle et qu'on la suive malgré ce qu'elle fait. Alors, et je trouve que c'est là où je me sens extrêmement présent dans l'accompagnement de la douleur de ce personnage-là.
De la même manière qu'un acteur rentre dans la vie d'un personnage, est-ce qu'un auteur, lui, est obligé de rentrer dans la vie de tous ses personnages ?
De tous les personnages. Et j'essaye surtout de pas de les défendre, quoique j'ai un petit côté Dupont-Moretti de mes personnages, parce que j'ai envie de les comprendre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la zone floue, c'est-à-dire qu'on n'est pas la bonne et la méchante d'une certaine manière, c'est que ce soit plus complexe, c'est-à-dire que on comprenne malgré ce qu'elle fait, on comprenne un peu Mathilde et de rendre légèrement agaçante par moment, par petites touches, sa sœur, pour que sa bienveillance soit parfois mal perçue.
Et toujours les femmes. Les femmes.
C'est parce que j'ai un frère, donc je pouvais pas faire deux frères. Mais très honnêtement, j'aurais pu tout à fait. C'est pas féminin la rupture amoureuse, la souffrance amoureuse, c'est
romans,
pas féminin.
Vos romans sont souvent
féminins. Mais là, ça aurait pu tout à fait être le cas d'un homme qui se fait quitter.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'on pouvait...
supporte pas la vie de son frère, qui nage en plein bonheur.
Sauf que vous devenez quand même, j'ai la sensation, David Funkinos, un auteur qui exprime aussi, qui sait parler ou adopter la voix féminine. On parle souvent de Stefan Zweig comme cet auteur incroyable qui peut sonder l'âme d'une femme. Je trouve que à chaque fois dans vos romans, vous avez cette capacité à faire entendre une musique qui sonne plus que juste d'une voix de femme.
C'est sûrement ma part féminine. Je pense que les auteurs masculins ont une part féminine et les auteurs féminins ont une part masculine.
Ouais.
Mais j'ai aussi fait beaucoup de personnages masculins. Il y a eu le mystère en réplique, par exemple, qui est au cinéma en ce moment avec Fabrice Lucchini. Le rôle principal, c'est cet enquêteur littéraire. C'est un homme. C'est vrai que les portraits psychologiques, c'est vrai, que ce soit La Délicatesse ou ce livre-là, ce sont plus féminins dans mes romans, c'est vrai.
Deux sœurs, signées par David Funkinos chez Gallimard. On voit bien Daniel Morin qu'avec le personnage Mathilde, les deux sœurs, une rupture amoureuse peut nous atteindre au plus profond de notre âme, de notre cœur. C'est un monde qui s'effondre, c'est un gouffre sous les pieds qui s'ouvre et on tombe. Et c'est ça aussi peut-être la puissance de l'amour, la force... dégoûte. Ça va mieux. Oh, espèce de fennec puant et putride, vous avez cru m'avoir ? Non, je suis là, incroyable et fidèle serviteur de la radio publique d'État. Mes hommages, Président Macron. Je ne lâcherai pas devant vous vos tentatives de coup d'État radiophonique, Monsieur Guy, ni devant vos attentats à l'intelligence francophone. Leïla, penche-toi vers la femme égyptienne et souffle-lui à la tronche ton haleine mi-fromage, mi-huître, que ça lui brûle la gueule. Ah, ça pique, mon cochon, hein.
C'est jaloux.
Mais quelle honte que d'employer ce vocabulaire niaiseux et ces tournures de phrases à la mort, moi, le prépuce. Et quand la lame brisée, nanana, et que le monde s'est font ni, avec le gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, nu. Moi, c'est le gouffre de l'ennui qui s'ouvre sous mes pieds gonflés de haine qui ne rêvent que d'une chose, botter vos fesses analphabètes et votre inculte fion. Hein ? Et qu'est-ce que vous y connaissez à la rupture amoureuse, Nagui, hein ? Les seules femmes qui vous ont quittées sont celles que vous avez tuées, puis dépecées, puis grignotées à l'apéro sous forme de chips avec vos amis nazis. En revanche, moi... Oui, moi...
Agnès, contrôle-toi.
Je sais ce que c'est de se faire quitter, d'être anéanti, humilié, dévasté, essoré, laminé, tambouriné.
Ah bon ?
Je m'en souviens encore. J'étais jeune, j'habitais dans cette contrée odorante et malfamée qu'on appelle la province. Et je vivais une aventure aussi sensorielle que passionnelle, que dégueulassement épanouissante. Et puis le jour du drame arriva. On sortait de la grotte après, de la décharge de déchets nucléaires, après avoir fait l'amour pendant... 2-3 jours.
Ouais, normal.
Heureux et encore frétillant, je lui disais « Alors, heureuse, mamie ?»
Ne me jugez pas, ne me jugez pas, j'ai droit à la différence. Elle me répondit, désolé, c'était pas mal, mais je prends plus de plaisir avec Jean-François, mon vieux Saint-Bernard. Oh, ne jugez pas cette pauvre bête non plus, s'il vous plaît. J'étais dévasté, piétiné, effondré. Ce n'est que bien plus tard que j'ai trouvé le réconfort avec Cynthia, l'ex de Jean-François, une caniche naine, mais très cochonne. Bref, tout ça pour dire que moi, oui, moi, toi. Eh bien, je connais vraiment, mais vraiment les affres de la séparation et du cœur brisé. En revanche, vous, mon tout petit monsieur Guy, oui. Une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi. Merci, Daniel Mort.
France Inter, la bande originale, avec Nadia.
David Fuenchino signe Deux Sœurs chez Gallimard. On aimerait vous en dire encore plus. J'espère qu'on vous a donné en tout cas envie de le lire.
Alors à la fin, figurez-vous qu'on ne s'y attend pas une seule seconde, mais...
Écoute, non, je t'ai demandé de ne pas le dire. Le dernier mot du livre, c'est oreille. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Voilà.
Ah, on en dira. Et ça veut tout
dire. Tous les auto-héno vont aller acheter le livre maintenant.
Vous comprendrez. Bah, ça va déjà du monde, hein. Vous comprendrez pourquoi j'avais dit que c'était oreille. Blague à part, votre livre est-il déjà pressenti pour être une pièce de théâtre ou être un film?
Oui, c'est vrai que ça pourrait être une pièce, parce que c'est vrai que la deuxième partie, c'est un huis clos. Film, oui, il y a eu beaucoup de propositions depuis la sortie du livre. Et ça me rend assez heureux. Je pense qu'il y aura un projet intéressant. Ouais.
Parce que pratiquement tous vos romans ont une autre vie.
Oui, bah là, en ce moment, en plus, ça.
Pas tous.
C'est vrai que mes premiers livres étaient plus absurdes, mais les derniers sont plus réalistes. Je raconte une histoire. Et
Charlotte.
C'est vrai que, Charlotte, il y a un projet de film, mais actuellement, il y a.
Et puis ça a été, c'est très au théâtre.
Au théâtre aussi. Et je suis très heureux de l'adaptation actuellement du Mystère en épique, qui est avec Camille Cotin et Fabrice Lucchini, qui marche très très bien.
Réalisé par
Rémi Besançon. Et là, c'est vraiment magnifique parce que j'ai. Pas écrit scénario, j'ai rien fait, et c'est vrai que j'ai découvert le film et j'en suis très très heureux. Quoi.
Vous avez un nom qui vous prédestine, j'ai lu que Fuenchinos, ça voulait dire le sèche-cheveux.
Ah oui, moi qui aime la langue allemande, c'est vrai que Fuenchinos, ça veut dire cinéma et sèche-cheveux, qui sont mes deux passions dans la vie. Quoi.
Kino cinéma, oui.
Ouais, exactement.
Mais Fuen, c'est pas sèche-cheveux.
Si, c'est un sèche-cheveux en allemand.
Ouais.
Et moi j'adore passer beaucoup de temps sur le sèche-cheveux.
Les bouclettes, ouais, on y est bien.
Voilà. La tristesse.
Il y a toujours une anecdote toutes les 2-3 minutes ici dans cette émission qui est très valorisante, quoi.
On se documente. Moi je pensais que c'était dans l'interro en fait cette question, et puis non.
Est-ce que l'idée de laisser votre enfant grandir entre les mains d'un réalisateur, d'un scénariste, d'autres acteurs sans plus vous en mêler, c'est une déchirure?
Non,
encore une fois, le mot a été employé avec David Neuvigan comme avec Philippe Labro. Il y a une trahison.
Non, pour moi, c'est pas, voilà, les livres vivent et tant mieux, et si c'est bien, tant mieux, si c'est moins bien, ça m'est déjà arrivé, c'est pas très très grave. Je trouve que c'est nécessaire. Là, l'adaptation, par exemple, du Mystère en épique, il y a beaucoup de différences, parce que dans le livre, c'était assez choral, il y avait beaucoup de personnages, et je trouve que l'adaptation a été très 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 judicieuse de recentrer sur le duo, Fabrice Tucchini, Camille Cotin. Donc, heureusement que c'est une trahison. Si les gens veulent voir exactement le copier-coller du livre, ça n'existe jamais. Il faut aller voir ça comme une seconde vie, d'une certaine manière.
Vous êtes en train d'écrire un film, une pièce de théâtre ou un nouveau roman?
On est en train de réfléchir à notre prochain film avec Stéphane, mon frère, puisque Jalouse, déjà, c'était sorti il y a plus d'un an, un an et demi. Donc on est en pleine écriture. Et voilà, ça sera, à mon avis, enfin on espère, on essaye, davantage une comédie. Que Deux Sœurs, je veux dire.
Un petit truc, David.
Alors, ça sera sur le sexe. Et donc, justement, on a pensé à Daniel Morin pour un rôle. La chronique, maintenant, m'a éveillé en plus.
Je comprends.
Si c'est avec Daniel, ça sera sur un second.
Pardon?
Quoi?
Des excuses, Nagui, que vous voulez me présenter?
Non, pas du tout.
Il est temps de finir cette
idée. Non, c'est une vanne quand vous dites c'est sur le sexe. Une comédie sur le sexe, c'est vrai?
Non, c'est un scoop.
Ah oui, Nagui.
Après, on est en train d'écrire, donc voilà, ça met du temps et on espère que ça sera bien. Mais oui.
Oui, mais enfin, vous n'êtes pas réunis avec votre frère, monsieur qui écrit Deux Sœurs.
Nagui, on vous dit quelque chose.
Mais j'écoute. Mais j'imagine mal deux frangins se mettre autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on fait, une comédie? Oui, sur quoi? Le sexe.
Ah aussi, pourquoi pas?
C'est exactement ça. Il a pas envie d'y croire.
C'est bizarre quand même comme réaction.
On en a marre, on a fait la délicatesse, ça y est, maintenant on va passer aux choses sérieuses.
La brutalité.
Mais bon, on n'est pas rendu encore.
Voilà. On n'est pas rendu
oui,
encore.
Oui, bah, ouais. C'est long,
c'est le titre.
Là, ça, c'était Max Pécasse.
Comment gérer, pour revenir sur Deux Sœurs, ce nouveau roman, comment gérer le suspense? Vous avez fait un thriller, il y a des pièces de théâtre, des films qui disent à la fin merci de ne rien dire, gardez le secret, ne dites pas qui a tué. Ne dites pas qui est Kaiser Soze pour juger un suspect et ainsi de suite, pour garder le suspense et garder l'appétit. Il n'y a pas de recommandations faites ou dites à la fin du livre?
Oui, non, j'espère. Voilà, les lecteurs
ne vont pas gâcher le plaisir des autres.
Voilà, je veux vraiment qu'ils ne racontent pas la fin du livre, parce que ça serait un petit peu dommage, évidemment.
Laisser une communauté plus responsable, peut-être, les lecteurs.
Oui, là, j'étais au Salon du Livre de Paris, j'ai signé. C'est vrai que ceux qui avaient déjà lu le livre, je leur disais chut, parce que c'est vrai que, ouais. Voilà, faut pas. Après, j'écris pas. C'est vrai qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a un dénouement. Évidemment, l'histoire est très importante. J'ai envie que le lecteur prenne du plaisir à suivre cette histoire, mais c'est pas non plus l'essentiel du roman.
Non, enfin, c'est-à-dire que il y a un truc qui m'a frappé.
L'écriture et la psychologie du personnage, ouais. c'est aussi mon travail.
Et pour en revenir à l'écriture et la psychologie, les deux sont liés. Le rythme de l'écriture, le rythme des phrases, la concision par rapport à au choc psychologique est lié.
Mais c'est pour moi, vous avez totalement raison. L'écriture, c'est vraiment une question de rythme, et c'est vrai que
c'est une musique,
j'ai écrit ce livre pour qu'il soit lu d'une manière presque, enfin qu'on soit propulsé finalement, presque finalement on est dans son vertige, et je sais que les lecteurs me disent qu'on lit assez vite ce roman-là parce que j'avais envie qu'on soit dans cette descente avec elle.
Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument. Là. Déjà, désolé enfin. Pour David Foenkinos, dont l'œuvre, l'écriture, le talent, la carrière et même l'avenir ont été résumés à des notes de bas de page par Leïla Fenias Boudadi. David, soyez indulgent. Elle a tellement de boulot, en plus de ses soirées poppers et de ses nuits échangistes à Levallois-Perret. Désolé pour Agnès Hurstel, oui, qui est très malade. Agnès, tout le monde t'a entendu 8 fois dans l'émission moucher environ 3 kilos d'extrêmement visqueux dans un Kleenex. Micro-taille. Nagui se propose donc, grand seigneur, de te ramener chez toi en jet privé. Sinon, je te ramène en brouette si tu préfères. Mais oui. Moi aussi, j'ai des sacs à vomi.
Elle a peur de la brouette aussi.
C'est vrai? Ah, on a déjà parlé. J'ai beaucoup ta coupe de cheveux.
C'est bon.
Désolé pour David Fekinos, encore auteur à succès, mais homme seul et dévasté qui joue seul au Monopoly, musicien frustré qui n'a jamais trouvé de bassiste, écrivain épuisé qui souffre d'insomnie, fait un boulot cool qui rapporte plein de blé, devenez animateur télé.
Mais je précise qu'il est un mari heureux et un papa comblé, voilà, c'est important de le dire. Merci David Foenkinos d'être
merci
venu.
Merci.
Et surtout,
beaucoup.
Bravo.
Merci
mille
beaucoup.
Bravo. Deux Sœurs, ouais, vous pouvez y aller et vous pouvez surtout le lire. Deux Sœurs chez Gallimard. Demain, Laurie Tillman et Camille Lacour seront avec nous pour parler avec l'UNICEF. De la nuit de l'eau qui aura lieu ce week-end.
Et là, il y aura Guillermo.
J'espère.
On espère, on croise les doigts.
Philippe Bertrand, bonjour.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis, bonjour David.
Bonjour Philippe.
Je rectifie un petit truc. Quoi? En allemand, sèche-cheveux, c'est fun. Donc fun kino, ça veut dire les cinémas sèche-cheveux, ce qui est complètement crétin. À moins qu'on fasse allusion à Pierrot le Fou et la fameuse citation d'Anna Karina, je ne sais pas quoi faire.
Wow, je vois que l'émission d'après est plus puissante intellectuellement.
Beaucoup plus puissante.
Merci pour cette précision.
Lui au moins est seul, il est pas embêté.
Non, j'ai Bruno Duvic avec moi.
Courage.
Merci.